Du pain sur la table.
Acte des apôtres, texte de la liturgie catholique romaine pour la fête de la Pentecôte. Quand arrive le jour de la Pentecôte, les disciples sont tous ensemble au même endroit. Soudain, il vient du ciel un son fracassant comme un vent violent qui se met à souffler. Il remplit toute la maison où ils sont assis. Alors leur apparaissent comme des langues de feu qui se partagent et ils s'en posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis du souffle saint et ils se mettent à parler en d'autres langues comme le souffle spirituel leur donne de s'exprimer. Or, à Jérusalem, habitent des Juifs pieux, originaires de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand cette voix retentissante se produit, une foule se rassemble. Elle est en pleine confusion, car ils les entendent parler chacun dans sa propre langue. Ils sont stupéfaits. Ils s'étonnent et disent :
« Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendons chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les contrées de la Libye cyrénaïque, et les Romains qui résident ici, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons dans nos langues parler des merveilles de Dieu. »
Tous ils sont stupéfaits et se disent l'un à l'autre tout perplexes.
« Qu'est-ce que cela veut signifier ?»
D'autres se moquent en disant qu'ils sont pleins de vin doux. Pierre, avec les onze, se lève et il élève la voix pour s'adresser à eux.
« Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, vous devez connaître cela. Prêtez l'oreille à mes paroles. Jésus le Nazoréen, que Dieu a désigné pour vous, par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui au milieu de nous. Vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des sans-lois. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Que tout le peuple d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Voici un récit très surprenant pour nous, gens du 21e siècle. Que peut bien signifier ce décor digne de la machinerie d'un théâtre d'opéra? Il nous faudra tenter de comprendre les images symboliques de cette manifestation de Dieu et quel sens peuvent bien avoir ces langues de feu qui font parler dans la langue des autres.
Alors citons l'événement. Il se déroule lors de la fête juive de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un mot grec qui signifie 50, est célébrée 7 semaines après la Pâque. C'est le 50e jour. Et les Juifs célèbrent en ce jour la fête de la moisson des blés. Mais ils font aussi mémoire de l'alliance qui a été faite au Sinaï où Moïse a reçu la grande charte du peuple de Dieu, la Torah. Au chapitre 19 du livre de l'Exode, on décrit cette célébration de l'Alliance.
Moïse convoqua tous les anciens du peuple. Il exposa devant eux toutes les paroles que le Seigneur lui avait données. Tout le peuple répondit d'un même cœur. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons.
Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Voilà comment a été scellée entre Dieu et ses fidèles une alliance de communion. Et un commentaire juif souligne cette unanimité entre les fidèles.
Lorsqu'ils étaient tous au mont Sinaï pour recevoir la Torah, ils étaient tous un seul cœur pour accepter avec joie la règle du règne de Dieu.
Cet engagement dans l'Alliance, la fête de Pentecôte la renouvelait chaque année en invitant chaque Juif à faire serment d'être fidèle aux paroles de Dieu. Eh bien, si Luc reprend des éléments de la description de cette alliance dans l'Exode, c'est pour faire de ce jour de Pentecôte la célébration d'une alliance nouvelle, une alliance qui va être scellée en et par Jésus. Et lui aussi note, comme c'était au temps de la première alliance, que tous sont ensemble dans un même lieu, et dans le premier chapitre, verset 14, il avait écrit « Tous, d'un même cœur, sont persévérants dans la prière. » Si nous reprenons le récit de l'Exode, qui lisons-nous?
Dès le matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, un son de corps très fort. Le mont Sinaï était tout fumant. Le Seigneur était descendu sur la montagne dans le feu.
C'est là que Dieu va donner à Moïse les 10 grandes paroles de la Torah. Alors comment comprendre le lien entre les tonnerres, les éclairs et le don de ces 10 grandes paroles de la Torah? Eh bien, c'est dans les commentaires juifs qu'on appelle les Targum qu'on va trouver des descriptions de l'événement qui vont nous permettre de mieux comprendre la scène que Luc décrit. Mais précisons d'abord quelques mots juifs que nous utilisons. Le mot Torah, eh bien, il est habituellement traduit dans les Bibles par le mot loi, parce que c'est ainsi qu'il avait été traduit de l'hébreu dans la Bible grecque des Septante. Mais cette traduction, les Juifs la trouvent vraiment très mauvaise. Ce mot, en effet, de Torah a plutôt le sens d'enseignement, un enseignement qui indique une direction. C'est ce qui prescrit comment agir pour marcher dans le droit chemin. On pourrait peut-être traduire Torah par règle, la règle d'une vie droite. Deuxième mot qu'il faut expliquer, les Targum. Eh bien, ce sont les traductions en araméen que les paraclets faisaient des textes hébreux de la Bible. En effet, à la synagogue, le texte sacré au temps de Jésus était lu en hébreu, langue qui n'était plus courante, et il fallait un paraclet pour traduire dans la langue parlée de l'époque, c'est-à-dire l'araméen. Cette traduction était souvent une sorte d'interprétation, presque de commentaire. Voici un texte qui est tiré d'un Targum, le Targum Yerushalmi, et qui commente le don de la Torah.
Lorsque la première parole sortit de la bouche du Dieu Saint, c'était comme des éclairs et des lampes de feu. Une lampe de feu à sa droite et une lampe de feu à sa gauche. L'éclair volait dans l'air des cieux et se gravait sur les deux tables de l'Alliance. Et la voix disait aux enfants d'Israël, « Mon peuple, je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a libéré de la servitude. » Et la deuxième parole, lorsqu'elle sortit de la bouche du Dieu Saint, c'était comme un éclair.
La première parole, la deuxième parole, c'était comme un éclair. Et le texte va faire la même description pour chacune des 10 paroles. Lorsque l'Exode, au chapitre 20, dit « Tout le peuple voyait les tonnerres et les éclairs », l'écrivain juif Philon commente ainsi.
« Une voix retentissait du milieu du feu venu du ciel, dont la flamme se transformait en langage adapté aux auditeurs. Les paroles étaient si claires qu'on avait l'impression de les voir. »
Les paroles, on avait l'impression de les voir. Et un autre commentateur, Johanan, précise.
« La voix sortie se partagea en 70 voix, en 70 langues, de façon que tous les peuples l'entendent. Et chaque peuple entendit la voix dans sa propre langue. »
On voit comment ce commentaire a pu inspirer Luc pour traduire l'expérience spirituelle que vont faire les disciples en cette fête juive de Pentecôte. Cette fête rassemblait en effet à Jérusalem un grand nombre de pèlerins, ceux qui viennent de la Judée et de la Galilée, bien sûr, proches, mais aussi ceux qui viennent de tous les pays de la Méditerranée, où ils ont immigré pour faire du commerce. Ces pèlerins sont tous ou bien des juifs de naissance, ou bien des païens convertis. Luc y ajoute des romains, c'est-à-dire des païens, qui font partie de l'armée d'occupation, puisque le pays d'Israël est occupé par Rome depuis près de 100 ans. Au jour de l'Ascension, Luc a bien souligné la mission donnée par Jésus, proclamer le message de conversion et de pardon à toutes les nations. Eh bien, dès ce jour de la Pentecôte, des représentants de toutes les nations qui sont sous le ciel sont donc présentes, et c'est là un symbole pour dire que le message de l'Évangile va être annoncé à l'humanité entière. Pour décrire cette nouvelle Pentecôte, Luc va donc reprendre ces images de l'Exode. C'est un procédé qui est fréquent dans les livres bibliques. On utilise des images qui parlent aux gens auxquels on s'adresse. C'est pourquoi la présence de l'Esprit divin va être décrite par un grand fracas, une voix retentissante, et par l'apparition de langues de feu. Mais pour Luc, ces langues de feu, qui symbolisaient les paroles de la Torah dans les commentaires que nous avons entendus de l'Exode, ces paroles de feu sont le symbole du souffle divin qui vient en chacun des disciples. Alors comment se fait ce passage des paroles de la Torah à l'Esprit divin? Eh bien, il faut peut-être nous souvenir des prophètes. Jérémie avait déjà dit au chapitre 31.
« Voici que viendront des jours où je conclurai une nouvelle alliance. Je déposerai mes directives au fond des êtres en les inscrivant sur leur cœur. »
Et plus tard, le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, va dire ceci.
« Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un souffle spirituel nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre souffle spirituel et je vous ferai marcher selon mes préceptes. »
Dans ce jour de Pentecôte qui suit le départ de Jésus, c'est donc l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement de ce qu'ont souhaité, espéré les prophètes. L'Esprit, le souffle spirituel d'amour promis par Jésus pour sceller la nouvelle alliance, se manifeste et il vient envahir les disciples de Jésus. Et c'est une alliance nouvelle qui se forge, une alliance qui ne repose plus seulement sur l'observance des préceptes, mais sur une communion d'esprit avec le Père. Comme Jésus a vécu, inspiré par le souffle spirituel de Dieu, ainsi va-t-il donner à ses disciples de vivre par son esprit qu'il insuffle en eux. Ce qui fait vivre le disciple en fils, en fille du Dieu Père, ce n'est pas seulement une obéissance à des règles, mais c'est une communion de volonté et d'esprit qui fait vivre avec Dieu, rechercher avec lui ce qui est bon et ce qui nous fait grandir comme un être libre et aimant et surtout un esprit qui nous donne la force de vivre les préceptes de Dieu.
Ils se mirent à parler en d'autres langues.
Alors est-ce qu'il s'agit ici du phénomène du parler en langue qui existe dans certains groupes charismatiques aujourd'hui? Paul a déjà parlé de ce phénomène charismatique dans la lettre aux Corinthiens. Il s'agit alors de gens qui profèrent des sons souvent harmonieux, mais qui sont le plus souvent inintelligibles et qui doivent être interprétés par quelqu'un qui en a reçu le don.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je souhaite que vous parliez tous en langue, mais je préfère que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'en donne l'interprétation pour que l'assemblée, l'Église, soit édifiée. Supposez que je vous parle en langue, en quoi vous serais-je utile, si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile.
Eh bien, nous voyons que dans cet événement du jour de la Pentecôte, il s'agit d'un autre phénomène. Dans les groupes charismatiques, le langage dans lequel les gens parlent n'est pas compris. Il faut un interprète. Alors qu'ici, ce sont les apôtres qui parlent en d'autres langues et chacun les entend parler dans sa langue. Nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu, disent les gens.
Quel est le sens de ce symbole?
Eh bien, on peut l'interpréter de la manière suivante. Le message de Jésus devra être annoncé dans la langue de chacun, dans sa culture. Le message d'amour et de bonté doit en effet pouvoir rejoindre chaque personne dans ce qu'elle vit, donc ce qui fait son univers personnel. Le missionnaire de Jésus devra donc rejoindre chaque personne en parlant son langage, en communion à ce qui fait sa vie, à ce qui fait ses joies, ses peines, ses valeurs, ses espérances. Un vieux dicton disait que pour apprendre le latin à John, il ne fallait pas seulement connaître le latin, il fallait aussi connaître John. Eh bien, pour apprendre l'évangile à quelqu'un, à Jean, à Pierre, à Paul, il faut d'abord bien sûr connaître l'évangile, et on ne connaît vraiment l'évangile que si on en vit quotidiennement, dans la mesure où l'évangile inspire nos gestes les plus simples de tous les jours. Mais connaître l'Évangile ne suffit pas, il faut aussi connaître Jean-Pierre Paul. Et connaître Jean-Pierre Paul, c'est devenir capable de le rejoindre dans son langage, c'est-à-dire dans ses intérêts, dans ce qui fait sa vie personnelle, dans sa recherche de sens. La connaissance de l'autre, de plus, ne sera vraie que si elle va, dans les deux sens, connaître l'autre, c'est partager et ce qui le fait vivre et ce qui nous fait vivre dans un dialogue qui est à la fois nourri d'un intérêt vrai, respectueux pour ce que l'autre pense et vit, mais aussi un dialogue passionné de partager le message de Jésus en témoignant de la joie qu'il met en notre cœur.
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Que tout le peuple d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ.
Mais quand il s'agit d'être témoin d'une personne passionnément aimée, témoignage doit toujours rimer avec respect et discrétion. Le chrétien n'est pas celui qui apporte le Christ aux autres, mais celui qui, avec une infinie pudeur, rayonne de son amour pour lui, ou plutôt de l'amour indicible dont il se sait aimé du Christ. Maurice Zendel traduisait cela ainsi.
C'est par là que nous serons universels, que nous n'imposerons rien, que nous ne prétendrons à rien, que nous ne voudrons rien réformer, rien enseigner. Car il n'y a pas enseigné l'amour, ni enseigné une personne. Il y a à la rendre présente dans la totale démission de soi.
Parler la langue des autres, c'est donc partager la vie de ces autres qui nous entourent, pour y retrouver la présence de ce souffle spirituel qui vient de Dieu. Et cela, dans le vécu le plus ordinaire, le plus quotidien, ce sera un geste humain plein de bonté, et nous y verrons l'Esprit de Dieu qui fait vivre ce frère, même si lui-même ne connaît pas Dieu. Ce sera un geste de pardon généreux, et nous y verrons l'Esprit de Dieu qui anime cette sœur, même si elle est d'une autre religion. C'est là, en effet, que Dieu se trouve, et c'est là que nous pouvons le rejoindre. Parler la langue de l'autre, ce sera développer avec lui des liens d'amitié gratuites. C'est aller au-delà des impressions superficielles qui caricaturent souvent ce qu'est l'autre et qui nous empêchent de le connaître en ce qu'il est intérieurement. Parler la langue des autres, c'est enfin être solidaire de leurs souffrances et partager leur lutte pour plus de justice. Ce dialogue entre croyants de diverses religions, entre croyants et incroyants, c'est comme le premier témoignage qui nous est demandé comme disciples de Jésus. C'est la première pierre à poser pour bâtir la paix, pour travailler à ce que le règne du Dieu d'amour et de communion vienne sur terre. Nous allons écouter ce que dit une lettre des patriarches catholiques d'Orient à propos du dialogue chrétien-musulman.
Nous disons aux chrétiens, libère-toi des illusions et de l'ignorance et efforce-toi de comprendre ce qu'est l'islam et qui est le musulman. Ne t'arrête pas à des clichés colportés ou à des informations superficielles qui déforment la vérité. Cherche ce qui est positif et qui peut aider à la collaboration. Aux musulmans, nous disons de même, libère-toi des illusions et des préjugés. Efforce-toi de connaître ce qu'est le christianisme et qui est le chrétien. Ne te contente pas d'idées superficielles et déformantes. essaient de voir la réalité vécue au jour le jour afin de connaître ce qui se passe et afin de pouvoir prévenir les heurts et répandre la tranquillité dans toute la société. Et aux chrétiens et aux musulmans, ensemble, nous disons « Vous n'êtes pas des ennemis l'un pour l'autre. Aucun de vous ne constitue une menace pour l'autre dans son existence ou un obstacle pour sa croissance. Au contraire, l'autre est le frère, l'ami, le voisin et le partenaire. Par sa richesse, tu t'enrichis et à mesure qu'il croît, tu pourras croître. »
Les tragédies de certaines guerres religieuses nous disent l'urgence d'un tel message. Tout cela, en effet, requiert un dialogue permanent et une rencontre fraternelle pour se reconnaître l'un l'autre, loin des catégories toutes faites et des idées préconçues. Ce qui est dit du dialogue chrétien-musulman peut en effet être aussi valable pour le dialogue entre chrétiens, orthodoxes, protestants, catholiques, ou pour tout simplement le dialogue entre voisins, entre compagnons de travail, entre membres d'une même famille. Notamment pour le dialogue entre gens de races différentes, ici même, dans notre pays. Au-delà des disputes de famille, des conflits entre compagnons de travail, des querelles entre gens d'options politiques différentes, l'Esprit de Dieu veut en effet faire la communion de tous, l'unité de tous, en respectant chacun et chacune dans sa propre personnalité, dans sa diversité. Chaque année, 40 000 personnes immigrées s'établissent dans la grande région de Montréal. Eh bien, c'est là un merveilleux chantier où la Pentecôte peut se vivre par les chrétiens. Sans cette immigration, en effet, nous ne connaîtrions pas de près les croyants de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam. Certains de ces immigrants parviennent assez bien à s'intégrer, mais d'autres ont de grandes difficultés parce qu'ils vivent une certaine exclusion. Pour nous, disciples de Jésus, l'étranger doit être avant tout une personne, quelqu'un qui a besoin d'un minimum de sécurité, de tendresse, de respect et d'amour. Chacun est un être unique aux yeux de Dieu. La fraternité à laquelle nous appelle l'Évangile nous invite donc à découvrir que nous sommes différents mais semblables, parce que dans l'autre il y a quelque chose de moi, parce que dans l'autre il y a quelque chose de Dieu.
On prêchera la conversion et le pardon à toutes les nations.
Voilà comment Luc, dans la finale de son évangile, au chapitre 24, définissait la mission qui était confiée par Jésus à ses disciples. Cette mission d'unité est inséparable de la mission de réconciliation. Pour réunir dans l'unité, pour apporter la paix entre les hommes, la paix dans les cœurs, il ne suffit pas en effet de crier ciseaux, de chanter des alléluia. Le monde tel qu'il est un monde où le mal règne. La bonté n'est certes pas toujours contagieuse. La non-violence de Jésus, de Gandhi, de Luther King, on le sait, a appelé la violence de ceux qui les ont mis à mort. Le disciple de Jésus n'est pas meilleur que ses prochains. Tous, nous sommes pécheurs. Mais tous, nous sommes aussi capables d'accueillir l'Esprit divin, l'Esprit qui est pardon et paix, et dont la résurrection de Jésus nous assure que cet Esprit est vainqueur de l'Esprit du mal. Il nous faut pour cela demeurer en Dieu, demeurer dans la prière, pour que vienne en nous cette force d'en haut qui nous revêt de la puissance de Dieu. Cette force divine nous est donnée à nous chrétiens, comme à tous les êtres qui l'accueillent. Et Jésus lui-même ne peut jamais être considéré comme notre propriété. Comme le souffle, il se donne à ceux qui respirent. Comme la lumière, il se donne à ceux qui ouvrent les yeux. Comme l'amour, il est au cœur de ceux qui aiment.
Ô Dieu de vérité, toi que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui es l'unique et le même. Tu es celui qui est, et tu es en tout ce qui existe, et tu es dans l'union de tous ceux qui s'unissent. Tu es dans la hauteur et dans l'abîme, dans l'infini des cieux et dans l'ombre de chaque cœur. Que te demander, sinon de t'aimer assez pour aimer tous ceux qui t'aiment et t'invoquent comme nous, de t'aimer assez pour aimer ceux qui te prient et te pensent autrement que nous, de t'aimer assez pour aimer ceux qui t'ignorent et ceux qui te rejettent parce qu'ils te méconnaissent. Donne-nous le goût de te connaître à travers les autres parce qu'ils sont chacun un reflet de toi. Et mets en nous cette soif de fraternité universelle que tu nous feras vivre au-delà du temps pour toujours. Amen. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous pouvez vous abonner aux cassettes ou aux feuillets. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site. www.relaismontroyal en un seul mot et sans trait d'union, www.relaismontroyal.com. www.relaismontroyal.com.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonne Pentecôte. À la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.